Alors, deuxième grand point que vous soulevez, Irène Fernandez, dans Dieu avec esprit, c'est le reproche qu'il fait au christianisme d'avoir une haine à l'égard de l'intelligence. Donc tout cela pose le problème complexe, qui a été développé d'ailleurs aujourd'hui par des grands philosophes comme René Girard ou Jean-Luc Marion, qui écrit aussi dans la revue Communio, de la relation entre la foi et la raison.
Oui, mais ça c'est un thème fondamental dans le christianisme et même dans le judaïsme de l'Antiquité, avec Philon dont vous parliez tout à l'heure. Dès que finalement les religions, que ce soit le judaïsme ou le christianisme, il y a eu une réflexion sur les rapports de la foi et de la raison dès les premiers siècles de notre ère, en tout cas, et même avant notre ère.
Donc pour vous, d'ailleurs vous l'écrivez, il n'y a aucune incompatibilité entre le rationalisme et la religion chrétienne.
Ça, j'en suis absolument convaincu. Je crois qu'on peut le montrer en plus. Il y a suffisamment de gens, comme vous dites, de philosophes, de théologiens qui ont réfléchi sur la question. Et dès l'Antiquité, vous avez le prologue de Jean, où on parle du logos. On dit quelquefois le verbe s'est fait chair, mais je ne sais pas si le mot verbe dit quelque chose contemporain. Le logos, la raison divine, s'est faite homme. Ça, c'est la croyance chrétienne, si vous voulez. Et pour les juifs, le logos, c'était, comme le dit Philon, s'exprime dans la Bible.
Et on peut arriver aux vérités chrétiennes, voire à la foi, par une démarche rationnelle.
Ah, on n'arrive pas à la foi par une démarche rationnelle, sinon ce ne serait plus la foi. Hein? Mais on peut montrer que la foi n'a rien de déraisonnable. C'est autre chose, vous voyez. Après, il y a quand même un choix, un acte de liberté à poser.
C'est ça, mais on peut comprendre en tout cas l'ensemble de la théologie, des principes moraux et des principes métaphysiques du christianisme par la raison.
Ah, tout à fait.
Oui. D'ailleurs, je citais tout à l'heure René Girard. René Girard dit lui-même qu'il est allé vers le christianisme par la raison.
Oui.
Bon, puis ensuite, il y a effectivement un autre pas à franchir.
Oui.
Qui est celui de l'acte de foi.
Oui.
Oui. Parce que, contrairement à ce qu'ont pu penser certains, on ne peut jamais prouver l'existence de Dieu.
Mais de toute façon, la foi chrétienne ne porte pas sur l'existence de Dieu. Je veux dire, l'existence de Dieu est admise ou a été admise par des quantités de gens qui, avant le christianisme, à côté du christianisme, etc. Elle porte sur l'incarnation du Fils de Dieu. Il est certain qu'on ne peut pas démontrer que c'est vrai. On peut démontrer ou l'existence ou la non-existence. On ne peut pas non plus démontrer la non-existence de Dieu comme essaye de le faire Onfray.
Donc la raison bute sur cette question-là.
Mais elle peut quand même faire des hypothèses. C'est ça, la raison aussi. La raison, c'est pas, comment dirais-je, quelque chose de complètement figé.
Alors, on aurait pu arriver à une preuve, mais à vos yeux, je crois que c'est la plupart des gens maintenant sont d'accord. On n'arrive ni à une preuve dans un sens, ni à une preuve dans l'autre.
Et je cite Jean-Yves Lacoste dans mon livre, les preuves de l'existence de Dieu dont se moque Onfray, bêtement, ne sont pas des preuves pour les gens qui disent, ce sont plutôt des manières, des autocompréhensions de la foi. Quand il s'agit des théologiens du Moyen-Âge, comme saint Thomas, saint Bonaventure, Dun Scott, etc., saint Anselme. En plus, il balance aussi d'un coup non seulement ces théologiens médiévaux, mais aussi des philosophes, depuis Aristote jusqu'à Leibniz et Hegel.
Ça fait un grand trou.
Ah oui, ça fait un grand trou.
On passerait des présocratiques à M. Onfray, alors. Ça fait quand même un certain vide dans le tissu. Alors, troisième élément, la haine de la vie.
Mais ça, c'est un vieux reproche qu'on fait. Il y a peut-être des gens qui étaient animés par cette haine, mais ça me paraît absolument aussi, ça me paraît stupide. Et en particulier, c'est la haine des femmes. Alors là, c'est...
Enfin,
j'en perds
pratiquement
la parole.
Enfin, haine des femmes, non, effectivement. Et vous expliquez bien que l'histoire du concile de Mâcon, tout le monde répète comme une ânerie stupide, comme un perroquet.
Oui, voilà, pour quand même Onfray, c'est surpassé, parce que non seulement il répète ça comme si c'était une vérité, mais en plus, il explique qu'on a discuté d'un livre, à ce concile, du VIe siècle, un livre qui n'a paru qu'au 16e. Oui, c'est tout embrouillé dans ses références, c'est quelque chose d'absolument
effrayant. Oui, en plus, on n'a jamais remis en question la capacité pour une femme d'avoir une âme. Ça n'a jamais été remis en question.
Mais ça ne peut pas être remis en question, c'est au contraire à l'anthropologie.
Ce qui est assez bizarre, c'est que c'est une affaire, moi j'ai déjà entendu 15 fois. Oui. Donc on est obligé à chaque fois de renvoyer les gens au texte, à ce fameux concile, où la question n'a pas été posée. Et vous rappelez vous-même que c'est juste une sorte de traduction pour savoir si anthropos veut dire l'homme dans son ensemble ou si ça comporte homme et femme, c'est tout.
Oui, exactement. Ouais. C'est une évolution du latin de l'époque qui a fait poser la question. Ouais. Et encore même pas à ce concile. Hein.
C'est même pas celui de Mâcon.
C'est Grégoire de Tours qui raconte ça. On ne sait même pas si l'évêque dont il parle était au concile de Mâcon ou pas. Mm-hmm. Mais il savait, est-ce qu'on peut employer le mot homme pour parler d'une femme? Vous voyez, c'est comme aujourd'hui avec les féminins.
Ça ne pose pas une question. Ça pose pas une question philosophique ou même le fait d'avoir ou ne pas avoir une âme, c'est simplement une question linguistique.
Voilà.
C'est tout, oui. Est-ce qu'homme veut dire homme et femme? Et vous citez une phrase de Saint Paul, 1 Corinthiens 11 et 11-12. À propos des femmes, parce que quelquefois des phrases de Saint Paul qui peuvent être choquer certaines dames, vous êtes
bien
d'accord?
Bien sûr, tout à fait.
Mais celle-là, donc va tout à fait dans le sens de votre sans-voix, celle-là, dans le Seigneur, la femme n'est pas autre que l'homme. Attends, faut attendre la suite avant de se mettre en colère. Dans le Seigneur, la femme n'est pas autre que l'homme et l'homme n'est pas autre que la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Mmh. Voilà, donc là, on se trouve dans une égalité absolue.
Oui, mais il y a des côtés du misogynisme, ou de la misogynie, il faudrait dire plutôt, de l'époque ou de l'Antiquité chez Saint Paul, c'est certain. On peut très bien les critiquer, mais il n'y a pas non plus que ça. Il n'a pas une sorte de théorie misogyne de la femme, vous voyez.